Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Lanzmann, vous allez bien?
Mais oui,
eh bien, on
même
est
un jour férié.
Oui, même un jour férié, on est là avec un zapping inédit, mais bon, les invités, c'est un peu plus compliqué.
Oh, on va
réécouter
Sheila.
Sheila, qui était top quand elle est venue nous voir.
Oui.
Alors, Gilles.
Et pas de question du jour.
Allez, on passe au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
L'instant zapping, alors c'est un peu les meilleurs moments que je vous ai trouvés, Valérie, ou des sons que j'avais pas eu le temps de vous passer. Par exemple, la tête de Turc préférée de Quotidien, vous savez qui c'est, Nicolas Dupont-Aignan, qui voyant en ce moment la débâcle à droite, voudrait une primaire. Le problème, bah, c'est qu'il est contre la primaire.
Et oui.
Du coup, Quotidien s'en est amusé.
On l'appelle le meilleur d'entre nous, parce qu'il propose ça.
La meilleure solution, ce serait grande primaire ouverte. C'est ce qu'avaient fait, souvenez-vous, les Républicains. Il y a eu un vrai débat médiatisé.
Il veut des primaires. Et on s'en souvient ce qu'il disait à l'époque.
Moi, j'ai toujours dit que la primaire, c'était un dîner de cons.
Vous comprenez pourquoi on l'appelle le meilleur d'entre nous?
La primaire, c'est une escroquerie politique. Cette comédie, ça introduit beaucoup d'ambiguïté. La meilleure solution, ce serait une grande primaire ouverte.
Eh voilà. Oui, voilà, les contradictions des hommes politiques.
On peut changer d'avis.
Restons dans la politique avec Jacques Lang. Il était il y a peu l'invité de Jordan Deluxe, qui cuisine sur une chaîne de télé. Et à son habitude...
Qui cuisine ses invités.
Qui cuisine ses invités, oui.
Il ne fait pas de recettes de cuisine.
Non, Jacques Lang n'était pas là pour manger.
Ouais.
À son habitude, il lui a parlé d'argent et des 10 000 euros qu'il touche à l'Institut du Monde Arabe. Colère de l'ancien ministre de parler, évidemment, de l'argent qu'il touche.
Président de l'Institut du Monde Arabe et vous étiez payé 10 000 euros par mois, je crois, c'est ça. Vous aviez poussé un coup de gueule là-dessus, parce que vous trouviez ça normal.
Mais pourquoi est-ce que vous-même, votre information vient de gazettes incertaines et non pas de choses sérieuses? Écoutez, vous voulez pas... Qu'est-ce que vous voulez en parler? Excusez-moi, je trouve ça totalement inélégant, mais je vais le dire.
Mais non, mais...
Excusez-moi, je réponds à votre question.
Bien sûr.
Et la rémunération du président de l'Institut du Monde Arabe est trois fois ou deux fois inférieure à celle du président du Louvre, à celle du président du musée du Quai Branly, à celle de la présidente du palais de Tokyo. Voilà la situation.
C'est élégant de balancer les autres quand on ne veut pas dire son salaire en disant « les autres gagnent plus que moi ». Chris Gurvan était l'invité du Quotidien. Alors Chris Gurvan, c'est un ancien livreur de chez Amazon. Et il raconte dans un livre « L'ubérisation de l'emploi » et écoutez ce qu'on lui demandait quand il était livreur.
Quand on est livreur Amazon, on n'est pas chez Amazon, on est chez une couche de sous-traitants. C'est-à-dire que Amazon a un sous-traitant qui a lui-même un sous-traitant et ces sous-traitants-là sont 100% dépendants d'Amazon. Par ailleurs, c'est un travail où il y a une cadence infernale. Moi, le premier truc qu'on m'a dit quand je me suis fait embaucher, c'est si tu as envie de pisser, tu pisses dans une bouteille. Voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a entre 130 et 100...
Celui qui vous a embauché vous a dit ça?
Ouais.
Donc, il vous le dit comme ça.
Oui, bah c'est connu dans le milieu. Quand t'as pas le temps de prendre de pause, un café, ça n'existe pas pour un livreur Amazon.
C'est fou, hein?
C'est dingue, hein?
Ouais.
Témoignage fort de l'iranienne Shador Javan qui raconte comment le phénomène MeToo n'est pas arrivé dans certains pays.
On a vu des actrices, des mannequins, des écrivains, des journalistes qui sont venus parler des agressions sexuelles, du viol, des harcèlements. Mais il faut se poser la question quand même, pourquoi il n'y a pas eu une seule, je dis bien une seule, des filles qui ont été mariées de force à 12, 13 ans par leurs parents? Comment cela fait-il que hashtag MeToo n'a ni contaminé la Chine, ni l'Inde, ni les pays musulmans, ni même les musulmans
vivants
en Europe?
Donc ça sort de l'Occident. Elle était invitée de Jean-Pierre Elkabbach sur CNews.
Et elle publie un livre très engagé, une fois de plus. Vous pouvez lire ses livres, c'est une remarquable écrivain.
Et pour finir, restons dans le droit des femmes, où Jerem Star a décidé de raconter désormais toute la vérité sur son compte Instagram, sur les méthodes, et on en a parlé ici, et les pratiques dans les émissions de télé-réalité.
Dites donc, je l'avais oublié, lui. J'ai mis quelques instants à me dire c'est qui celui-là. Voilà.
Et ben écoutez-le.
Aujourd'hui, je vais vous révéler des choses que je n'ai jamais dites. Quand j'ai commencé à balancer sur la prostitution et notamment sur les pratiques scatophiles, j'ai été placé sous protection. Elle avait coupé le tampon, un tampon rempli de cocaïne, pour le ramener sur le tournage. Il y avait des rédacteurs en chef qui aimaient bien la farine. J'ai retrouvé une candidate dans le coma, en fait, dans une loge. Il a fallu appeler les pompiers.
Voilà, c'est pas très joli, les coulisses de la télé-réalité.
C'est pas terrible. On va nous retrouver quelqu'un qui est joli. C'est notre amie Sheila qui était venue nous voir et elle n'a pas la langue dans sa poche. Notre invitée du jour, c'est Sheila.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
Bonjour Sheila, merci d'être avec
nous.
Tout le monde va bien, vous aussi?
Je vais très bien, merci.
Bon, vous n'avez pas besoin de vaccin?
Non, ça va.
On en redira peut-être un mot. Alors, on vous invite effectivement, normalement on reçoit des invités médias, purement médias, mais vous faites quand même partie des chanteurs qui ont marqué la télévision avec les Carpentiers. Enfin, ça, c'est toute une histoire, donc on y reviendra avec vous.
On va
revenir surtout, on va parler de votre nouvel album Venu d'ailleurs, qui est sorti début avril et qui, de l'avis de beaucoup de monde, est certainement l'un de vos meilleurs albums, très personnel, très intime. Ouais. Mais on va en reparler dans un instant.
Et puis l'avis de nos oreilles et de notre cœur.
Oui, absolument. Non, mais c'était des autorités.
Voilà.
Mais nous aussi, on l'aime beaucoup cet album, donc on est ravis de vous avoir ce matin. C'est votre 27e album. Il y a eu 9 ans d'interruption.
Ouais.
Pourquoi, au bout de 9 ans, vous décidez de refaire un album? Non, ça vient comment?
C'est-à-dire que l'album, j'y pense depuis 4 ans. Après, j'ai mis 4 ans à le faire, parce que malheureusement, j'avais une idée bien précise, je voulais faire la boucle et bouclée, en évoquant tout ce qui avait fait 60 ans de ma carrière. Et évidemment, je voulais travailler avec certaines personnes, et au départ, j'ai travaillé avec des gens plus ou moins branchés. Ouais. Voilà, et personne ne voulait aller... Tout le monde m'emmenait ailleurs. Or, moi, je vous sais, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs, comme on dit.
Ouais.
Et voilà, je me suis battue, je me suis séparée de plein de gens, et en réalité je me suis rendu compte que les personnes avec qui je devais travailler étaient simplement autour de moi, quoi. Donc j'ai travaillé avec Eric Hazard qui fait mes spectacles depuis 4 ans, avec Ludo qui est rentré depuis 2 ans avec moi en tant que manager, et on a réussi à avoir ce que je voulais. J'ai eu la chance en plus d'avoir, parce que j'ai commencé par eux, les Américains, ouais. Nile Rodgers et Keith Olsen, ouais. Parce que la boucle est bouclée, sans eux c'est pas
bien
possible,
sûr.
Quoi,
ouais.
Parce que c'est trop important dans ma carrière. Donc, ils ont été d'accord. Donc, à partir de là, j'ai pris des auteurs et c'est moi qui ai choisi tous les sujets que j'évoque dans cet album, ouais. Avec qui j'ai parlé, j'ai expliqué, pour avoir exact... Comme si c'était moi qui avais écrit les chansons.
Et vous n'aviez pas envie de les écrire, justement?
Écoutez, moi, j'ai écrit plusieurs bouquins, ouais. J'en ai fait 7. Or, je trouve que quand j'essaie d'écrire des chansons, je suis mauvaise. Enfin, je me trouve mauvaise, il faut être honnête, quoi.
Ouais.
C'est un métier, on a de beaux auteurs, des gens qui ont un talent fou, donc j'ai préféré passer par eux.
Pour nos auditeurs, on écoute un extrait.
Absolument.
Valérie, je vous propose la rumeur, puisque vous avez été victime de nombreuses rumeurs, une récente sur l'AstraZeneca, on pourra en parler. Écoutez la rumeur.
Si l'histoire est un mensonge que personne ne contredit, la rumeur est comme un songe qui jamais ne se finit. Songez qu'encore elle me ronge, j'ai beau nier ce qu'est dit Dany. Je suis celle.
C'est joli, hein?
C'est une mélodie fait par Philippe Rombi, qui normalement est un monsieur qui n'écrit que des musiques de films. Il a été césarisé plusieurs fois et je lui ai demandé d'essayer de faire. C'est la première fois qu'il fait une chanson. Essayer de travailler sur les paroles qu'avait écrites à Maurice Salmon. Et voilà, cette chanson, je la trouve.
Ça pourrait être le générique d'un film qui s'appelle La Rumeur. Tellement c'est mélodieux, vraiment cette chanson.
Et vous aviez besoin d'exprimer en fait cette douleur
qui
a été la rumeur. On vous en a tellement parlé.
Que ça a poursuivi ma vie pendant 40 ans, la vie de mes parents, la vie de Ludo. Et puis surtout, je pense que c'est un fait de société aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça a duré sur 40 ans. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les réseaux sociaux et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de dangers pour ceux qui subissent la rumeur.
Ouais.
Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un truc de fou. On est un animal traqué, on vit plus, on se cache. Et puis ça, d'ailleurs, on voit bien dans l'actualité des gamins qui se suicident, qui sont traumatisés par ça. Parce que franchement, ça fait un mal fou et ça vous traumatise à vie.
Est-ce que Claude Carrère, qui était votre producteur, qui est celui qui avait imaginé cette histoire pour faire vendre du papier, s'est excusé un jour?
Non, jamais. Non. Bon, il y a plein de choses où il aurait dû s'excuser.
Oui,
mais vous savez, si j'avais vécu en me disant il aurait dû s'excuser, il aurait dû me donner mon argent, il aurait dû.
Non, pas il
moi,
aurait... Oui, la question
moi,
c'est est-ce qu'il l'a fait?
Non, il ne l'a pas fait. Et c'est pour ça que je ne suis pas allée à son enterrement d'ailleurs.
Ouais. Mais ça veut dire qu'à l'époque vous étiez naïve ou c'était tout un système
non,
dans lequel...
quand on a 18 ans dans les années, c'était 64, 65, moi je connaissais rien, j'arrivais des marchés de mes parents, on peut pas imaginer ce métier qui a évolué beaucoup aujourd'hui, on est au courant de tout. À l'époque, tout se créait, donc je peux pas imaginer déjà dans ma tête d'enfant, parce que j'étais encore une gamine, de me dire que les gens vont croire à une chose pareille. Et puis surtout, le gros problème qu'il y a eu à l'époque, c'est que, enfin c'était un gros problème, c'était merveilleux, mais moi je faisais vendre du papier. Donc évidemment, tous les 15 jours, j'avais une. Donc, et évidemment, on a fait mousser c'est cette histoire qui m'a poursuivie tout le temps pendant la naissance de mon fils, quand j'étais enceinte. Enfin, ça a été une histoire à braque à d'apprentex.
La rumeur pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi, c'était que vous étiez un homme et pas une femme. Voilà, pour donner des précisions.
Et que votre fils en a aussi souffert, bien évidemment.
Ah bah, quand un enfant va à l'école et que ses petits copains lui disent « ta mère, c'est pas ta mère, c'est ton père », c'est quand même bizarre, quoi. C'est très traumatisant. Donc, je pense que ça a été aussi dans sa vie, dans la vie de mes parents, quelque chose qui l'a marqué, bien évidemment.
Bien évidemment. Il y a une chanson qui lui est consacrée à votre fils également, qui est décédé il y a quelques années. C'était aussi pour vous important d'évoquer.
Ouais, ça s'appelle Cheval d'Amble. Moi, je pouvais pas faire un album parce que dans l'histoire de ma vie, évidemment, la plus grand drame, c'est quand même celui-là. Et je trouvais que c'était important qu'il soit là. Alors moi, je voulais pas vraiment une chanson. J'ai fait écrire un auteur de théâtre qui s'appelle Christian Siméon, qui est moliérisé. Et je l'ai rencontré, il vivait aux États-Unis, je l'ai rencontré, je lui ai expliqué ce que je voulais. Je lui ai raconté l'histoire de Ludo et de moi. Et il a fait une chose magnifique, mais c'est pas... Mais c'est Philippe Rombie aussi qui a fait la musique, mais j'appellerai pas ça une chanson, c'est plus un poème. Moi, cette chose-là, je l'ai fait pour lui, pour qu'il reste dans la lumière, et surtout, je l'ai fait pour faire taire tous ces cons qui parlent, qui bavassent, qui font de la pub sur un drame, et j'avais envie qu'on le laisse dans la lumière et qu'on le laisse tranquille. Voilà.
C'était difficile d'avoir un enfant et d'être une chanteuse, enfin, c'est le cas de beaucoup.
C'est pas difficile d'avoir un enfant, c'était mon rêve d'avoir un enfant.
D'avoir une carrière comme celle que vous avez eue.
Je pense que voilà, il y a des gens qui arrivent très bien. Il y a des enfants de chanteurs qui s'en sont très bien sortis. Je pense qu'après Ludo, c'était un cœur sur pattes, et Ludo, c'était quelqu'un de trop gentil et de trop confiant. Il a été avalé par ses mauvaises fréquentations, il a pas fait attention, je pense qu'il a souffert de plein de choses. Mais il a eu sa maman, il a pas eu de père, et tout ça a fait un déséquilibre qui a fait que ça ne l'a pas aidé, quoi.
Un auditeur demande qui est devenu justement Ringo, qui était le père.
S'il peut me donner des nouvelles, moi je n'en ai pas, moi je l'ai jamais vu depuis le jour du divorce, donc je sais pas, mais c'est vrai qu'il a complètement délaissé son enfant. Et je pense que dans l'éducation d'un gosse et dans sa façon de grandir, le fait de pas avoir aucune connexion avec son père et la seule qu'il a eue, ça s'est très mal passé. Donc voilà, je pense que ça l'a pas aidé vraiment.
Et puis c'est très dur d'avoir une personnalité quand on vous parle tout le temps de vos parents et qu'on vous parle jamais de vous. C'est le drame des enfants célèbres.
Ouais, mais il y en a qui s'en sortent.
Là c'était plutôt aussi le manque de papa
ça lui a fait
plein
beaucoup
plein de
mal.
Choses. Xavier nous dit quelle voix, c'est incroyable. Elle a toujours la même voix. C'est bravo Sheila. Donc
alors ma voix n'a pas changé, ma façon de chanter a changé, parce que quand j'ai travaillé avec Eric Hazard et Ludovic Barnouin, qui sont les deux personnes avec qui j'ai fait cet album, au départ moi j'ai tendance à un peu timbrer, et ils m'ont dit non, faut essayer de faire autrement et tout. Et c'est marrant parce que j'ai chanté vraiment différemment. Alors sur le souffle, par rapport à mon souffle à moi, évidemment, moins timbré. Et quand j'ai entendu, je me reconnaissais pas. C'est bizarre, on dirait pas que c'est moi qui chante, quoi. Et puis à la base, ils avaient raison, puisque je n'ai que de bonnes critiques sur cet album, donc je les en remercie.
Vous aviez chanté, parce que j'ai tapé Sheila Jane Birkin pour essayer de trouver, et vous aviez chanté pour la fin de votre spectacle, vous aviez chanté Je suis venue te dire que je m'en vais.
Ça, c'était en 89.
C'était en 89, et il y a un ex-fan des Sixties.
C'est ça, ça que j'ai chanté.
C'est ex-fan des Sixties que vous aviez chanté, où effectivement la tessiture de Jane Birkin n'est pas tout à fait la même que.
Je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis. À présent, la
Ça, c'était... Voilà, ça c'était
89.
89, je suis venue te dire que je m'en vais, mais vous n'êtes pas partie, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Bah, je suis partie pendant 9 ans, j'ai fait un break de 9 ans, et puis je suis revenue parce que la scène me manquait, je suis revenue. Au départ, j'ai dit je vais revenir, je vais faire du bonus, un petit bonus. Puis le bonus, depuis 96, bah, j'y suis toujours dans mon bonus, j'ai un gros bonus.
Voilà. C'est quoi le secret de votre forme et de votre longévité
De votre énergie
parce que
j'aime ce que je fais, parce que je suis une battante, parce que j'aime ça, parce que je trouve qu'on fait un métier... vous savez, le métier du showbiz, c'est un métier de mec, hein, en réalité. Ouais. Et les nanas, c'est très compliqué, parce qu'une femme n'a pas le droit de vieillir. Après 40 ans, elle est éjectée, moi je le vois partout, quoi. Ouais. Donc moi je m'accroche parce que je trouve ça totalement injuste et que les femmes ont leur place. Mais
Elle continue quand même, Jane Birkin chante, Sylvie Vartan...
D'accord, voilà. Mais si vous regardez on ne passe pas. Ouais. Les hommes passent, Julien Clerc passe.
À la radio, vous voulez dire à la radio, dans les émissions.
Les femmes sont exclues. Parce que
vos chansons, par exemple, de ce nouvel album, ne passent pas sur les ondes des radios, sauf quand vous êtes invité comme ça. Vous ne rentrez pas en playlist.
Non.
Et c'est un phénomène, ce que vous nous avez dit pendant la coupure, en fait, c'est un phénomène général, c'est-à-dire que les femmes, au-delà de 40, 50 ans, elles ne sont pas programmées.
Voilà. Dans ce métier, c'est vraiment incroyable. Moi, je trouve ça absolument délirant qu'aujourd'hui, des carrières comme les nôtres, et Dieu sait qu'on n'est pas beaucoup, il y a Sylvie, il y a Françoise, il y a moi, il y a Jen, qui est un peu moins longue, mais quand même, mais on peut faire tous les plus beaux albums qu'on veut, vous ne les entendez pas en radio. Et je trouve ça totalement illogique.
Et comment vous l'expliquez? C'est la société.
D'abord, ça fait partie des gros problèmes de la société, ça fait partie du fait que on est autorisé jusqu'à, mettons, 40 ans, 45 ans, et puis après, vous êtes au rebut, quoi. Et je trouve ça terrible, parce que ce métier, c'est pas ça, parce que Dieu sait que ce soit Jen, que ce soit moi, que ce soit... Je sais pas ce que fait Sylvie, j'en sais rien, mais je trouve que c'est pas normal, parce que Dieu sait que, en tous les cas, concernant mon album, puisque je peux parler que de celui-là, je n'ai eu que des bonnes critiques. Je ne vois pas, avec des auteurs, avec des chansons que je revendique comme magnifiques, je ne comprends pas pourquoi on ne passe pas. Alors, c'est parce que on est des dinosaures. Les dinosaures vous emmerdent et ils aimeraient bien passer en radio aussi, parce que quand même, j'estime que quand on va fêter 60 ans de carrière, ça se respecte. En tous les cas, ça se respecte. Et puis, vous savez, on va fêter l'année prochaine, le 11 et le 12 novembre 2022, mes 60 ans de carrière. Et quand je dis ça.
La salle Pleyel de Paris.
Ouais. Incroyable. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'avoir que 40 ans. Donc, c'est hallucinant et je ne sais pas ce que j'ai fait pendant ces 60 ans, parce que j'ai la chance de faire un métier où j'ai jamais eu la sensation de travailler. Et j'ai tellement une vie énorme avec tout le monde, quoi. On a grandi ensemble que je me dis que c'est j'ai une chance magnifique au milieu de ma vie compliquée.
Eh ben, remontons dans le passé, Valérie. Vous vous souvenez, c'était votre époque, non, les yéyés?
À peu près.
Eh ben, remontons aux yéyés avec cette chanson qui s'appelle Tous yéyés.
Il y a Antoine qui nous dit « J'ai encore un 45 tours Devotion face A et Love Spacer. Me Baby, et Love Me Baby face B, instrumental.
Voilà. » Ah bah oui, c'était dans les années 77.
77, ouais. Donc, ça c'était la période un peu disco.
C'est la période disco, c'est la période du grand retour, de l'arrivée avec trois garçons de couleur, le short à paillettes, qui a fait quand même ma réputation.
Oui,
faut
absolument.
Dire.
Oui, ce fameux...
La barre lumineuse.
Ouais. Vous l'avez gardé, le short à paillettes?
J'ai tous mes costumes, moi.
Ah, vous avez tous vos costumes?
Ouais, j'ai tout. Alors, donc, j'ai évidemment tous les shorts à paillettes.
Ah, vous avez tous vos costumes.
Mais je crois que beaucoup d'artistes, Julien Clerc aussi, nous a expliqué qu'il avait une malle, enfin, qu'il avait des...
Enfin, moi, c'est pas une malle. Moi, le problème, c'est que les maisons, les mètres carrés de maisons rétrécissent et la collection augmente. Donc, voilà. Mais non, j'ai gardé parce que, voilà, je crois que je tiens ça de ma mère et de ma grand-mère. Ouais. J'avais une grand-mère qui gardait tout, ma mère faisait pareil. Donc, j'ai tout gardé. Puis un jour, eh ben voilà, ça partira.
Faut faire une expo.
J'y ai pensé pendant longtemps, après... c'est pas que yéyé, alors là, on a carrément...
Il y a toutes les périodes, justement.
Il y a toutes les périodes, il y a... Oui, oui, voilà. On verra, je sais pas.
Vous les regardez de temps en temps?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non.
C'est entreposé quelque part.
Ouais.
Et
non, mais c'est moi, je suis pas quelqu'un qui vit dans le passé. Hein.
Ouais.
Moi, je vis dans le futur.
Ouais,
je
le présent,
vis sur les projets, sur les choses que j'ai envie de faire, sur écrire un livre, sur voilà, j'ai faire une série télé. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de vivre ma vie à fond, quoi.
Je me souviens que je vous avais reçu sur France 3 pour une cassette à l'époque, un DVD d'aérobic, je crois que c'était ça. Non, vous aviez pas fait ça?
Non, j'avais fait une chanson là-dessus.
Vous aviez pas fait des cours de...
Non.
C'était une chanson.
C'était une chanson qui s'appelait Bodybuilding.
Bodybuilding, bah alors,
voilà, c'est ça, où j'étais en collant avec des danseuses, où je faisais le grand écart. Ah. Non, ce que j'ai fait pendant le confinement, j'ai fait avec ma coach Véronique Bonhomme, on a fait justement des choses pour se sentir bien, on a fait du do-in pour les points du visage.
Du do-in?
Du do-in.
Ouais. C'est quoi le do-in?
Bah, le do-in, c'est des points très importants qui vous réveillent le matin, qui vous font du bien.
Ah, comme l'acupuncture.
Voilà, un peu. Voilà. On a fait ça, on a fait des étirements, on a fait justement pour que pendant le confinement, on essaie de bouger un peu, de se sentir bien et d'affronter cette période délicate avec des respirations et du sourire.
Bon, bah écoutez...
Mais on va s'en sortir.
Bah oui, on va s'en sortir, évidemment. Vous serez le 5 novembre 2022 au Cirque Royal de Bruxelles, si tout va bien, et on l'espère.
Non, mais
et
tout va bien.
Tout va bien.
Vous allez voir.
Et puis à Paris, 11 et 12 novembre, salle Playel à Paris, et puis une tournée francophone un petit peu partout.
Bah, je vais beaucoup voyager après,
Vous allez mal voyager.
Ouais, je vais partir traverser la France et voilà, et me balader ce beau spectacle qu'on est en train de préparer.
Avec qui vous êtes restée copine de l'époque des...
Bah, Françoise. Françoise, c'est mon âme sœur. Françoise, c'est... Alors, Sylvie, c'est compliqué parce qu'elle elle habite pas ici, donc on n'a pas vraiment l'occasion de se voir. Mm. Mais Françoise, c'est vraiment quelqu'un avec qui je suis en contact tout le temps parce que je l'aime, j'ai une admiration folle pour elle et que c'est une femme d'un courage absolu.
Et dans les garçons, personne?
Bah dans les garçons aussi, j'ai perdu beaucoup de copains. J'ai perdu Claude François, j'ai perdu Dassin, qui était mon voisin. Johnny, maintenant, n'est plus là. Enfin, voilà, c'est un peu plus compliqué.
Mais vous voyez à l'époque
Ah bah oui, moi j'ai fait, bien sûr qu'on se voyait. Bah Claude, ça a été mon grand pote.
Bon, alors on a plein de témoignages. Il y a Antoine qui veut faire dédicacer la pochette du disque. Merci beaucoup Sheila. Et on attend le 28e album dans 9 ans.
Non, ce sera avant.
Ce sera avant.
Mais bon, pour le moment déjà, on va s'occuper de celui-là.
Merci.
Et surtout, on se retrouve à Playel.
Ah, on se retrouve à Playel, effectivement. Les réservations sont déjà ouvertes, je pense.
Oui, absolument.
Merci à vous.
Bonne
on se retrouve
journée.
Nous dans un instant pour commenter l'actualité. Si j'entends, oh.